Bienvenue dans ce deuxième épisode de Finanthrope, le podcast qui remet l'humain au centre de la finance. C'est un podcast Investir Éthique. On va s'intéresser aujourd'hui au minimalisme, une notion qui a été popularisée ces dernières années, notamment par Marie Kondo, qui a publié des livres dédiés au désencombrement et a été la star d'une série Netflix en 2019. Mais si vous avez été un fervent spectateur de cette série, sachez que le minimalisme, c'est pas seulement d'avoir une maison bien rangée. Et je vous propose aujourd'hui de revenir sur cette notion sous un prisme économique. Pour faire ce voyage, on va passer sans transition de Marie Kondo à Marx, pour faire un parallèle entre le minimalisme moderne et le matérialisme historique de Marx. Ce qu'il disait, c'est que les conditions matérielles définissent les relations de production, qui à leur tour définissent les principes des organisations sociales. Si je me permets un twist moderne, ça veut dire que les biens que l'on possède définissent notre place dans la société. Ce que le minimaliste va faire, c'est donc remettre en question cette place qu'il tient dans la société et se repositionner sur l'échiquier des organisations sociales par l'abandon de certains biens matériels. Un autre point qui est très intéressant, c'est l'origine du nom de cette philosophie minimaliste, qui vient en fait d'un courant artistique qui a émergé dans les années 60. Dans les arts visuels, le minimalisme, ça consiste à revenir à l'essence d'un sujet. Et en France, on a un artiste qui est très connu, qui est Yves Klein, qui est notamment connu pour ses peintures monochromes de cette nuance de bleu qui s'appelle aujourd'hui le bleu Klein. L'application du minimalisme dans la vie, elle est souvent montrée d'un point de vue esthétique, hein, c'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt. On a tous vu des photos d'appartements blancs et vides, mais c'est un petit peu caricatural. Pour moi, le minimalisme, c'est avant tout le contrôle sur son environnement, et donc sur ses biens matériels. Et pour contrôler, il faut bien sûr être conscient de cet environnement, et se demander de quoi on a besoin, quelles sont nos priorités, et quelles sont les choses dont, au contraire, on peut se passer. Voire même, au-delà de ça, quelles sont les choses dont la disparition nous rendra plus heureux ou au moins plus serein. C'est pour ça que la consommation, l'épargne et donc par extension la gestion de ses finances sont au cœur du minimalisme. Être minimaliste, naturellement, ça va se traduire par une consommation plus durable qui produit moins de déchets, qui est plus réfléchie. Et l'épargne est aussi liée au minimalisme parce que souvent, vivre mieux avec moins, ça va permettre de mettre plus d'argent de côté, tout simplement. Alors attention, la philosophie minimaliste, c'est pas du tout s'empêcher d'acheter une voiture, une maison, arrêter d'aller au restaurant, ne pas acheter de jouets à Noël pour ses enfants. Mais c'est simplement supprimer les dépenses superficielles, celles qui peuvent être par exemple des injonctions extérieures à travers des normes sociales ou à travers la publicité, mais qui n'ont pas vraiment de sens dans notre vie. Il y a une notion qui est très utilisée dans la publicité et qui est très intéressante pour notre sujet, c'est l'indulgence. Quand je parle d'indulgence, je parle d'indulgence envers soi-même, du fait de voir la consommation comme une récompense. L'idée aussi qu'on pourrait mériter tel ou tel objet. Ce ressort psychologique, on y a tous succombé un jour ou l'autre en se disant qu'on se paierait ce nouveau vêtement, ce nouvel appareil électronique pour se récompenser. Mais ce mécanisme, il est contraire à la philosophie minimaliste, puisque quand on parle de minimalisme, on parle, et là je le rattache aux finances personnelles, de protection de son capital. Quand on est minimaliste, financièrement parlant, le but c'est de dépenser moins que ce que l'on gagne et aussi d'éviter toutes les dépenses lourdes. Concrètement, ça se traduit par le fait d'éviter les crédits les plus lourds à assumer, comme par exemple les crédits à la consommation. Mais plus largement, ça se traduit par le fait de ne pas adapter son niveau de dépenses à son niveau de salaire, mais de maintenir ses dépenses au minimum. Le minimum prenant bien sûr en compte les loisirs, la vie sociale, etc. Être minimaliste, ce n'est pas avoir un style de vie ascétique, mais c'est tout simplement être conscient de ses besoins et agir en fonction. Parmi les minimalistes modernes, il y en a d'ailleurs quelques-uns qui ont affiché des objectifs financiers clairs, comme le fait de partir à la retraite de façon anticipée par exemple, grâce à une épargne importante. Alors concrètement, comment on peut appliquer cette philosophie à l'investissement? Eh bien, il y a trois notions qui sont importantes pour rendre ça concret. La première, c'est qu'on a vu que le minimalisme, c'était le retour à l'essence du sujet. La deuxième, c'est qu'on a vu que c'était identifier ses besoins et y répondre. Et la troisième, qu'il y avait une dimension éthique, en matière par exemple de non-gaspillage. Tous ces éléments peuvent se traduire de différentes manières dans un portefeuille financier. On peut commencer par assainir ses dettes par exemple en évitant les crédits chers, en conservant plutôt les crédits de long terme qui sont moins lourds. On peut aussi créer une épargne de précaution tout simplement, qui servira en cas de besoin. Et côté investissement pur, la philosophie minimaliste voudrait qu'on évite tous les produits trop complexes et qu'on se concentre sur les produits les plus simples qui permettent d'investir le plus directement possible avec un impact le plus visible possible, en évitant aussi de multiplier les intermédiaires. Encore une fois, le but n'est pas de vivre de façon dépouillée, mais d'éliminer le superflu pour conserver uniquement ce qui répond à un besoin et à une stratégie qui sera définie en fonction de l'âge, du lieu et du style de vie, de la présence ou non d'une famille, du statut professionnel, etc. Par exemple, si quelqu'un souhaite épargner à long terme en vue de sa retraite et que ses convictions sont de limiter son empreinte carbone, il peut investir dans un fonds spécialisé, par l'intermédiaire de son plan d'épargne retraite par exemple, et acheter une part de groupement forestier pour contribuer à capter le carbone. Au contraire, un étudiant qui a besoin d'une grande flexibilité de placement peut aller vers un compte-titres pour investir dans des ETF ou dans quelques actions ciblées dans des entreprises qu'il apprécie. Pour prendre un peu de hauteur, on peut citer le recueil d'essais de l'économiste Schumacher, Small is Beautiful, qui a été publié en 1973. Dans ce recueil, plusieurs thématiques qui peuvent s'appliquer au minimalisme dans l'investissement ont été évoquées. Il y a par exemple l'idée de revenir à une échelle plus humaine, d'aller vers le local, d'être attentif à son environnement direct. Et il y a aussi la notion de remettre l'homme et la nature au cœur du système économique de production. Je vous propose de conclure avec un passage de l'épilogue de cet ouvrage qui dit ceci. Partout, on demande: que puis-je réellement faire? La réponse est aussi simple que déconcertante. Nous pouvons, chacun d'entre nous, travailler à faire régner l'ordre en nous-mêmes. Les conseils dont nous avons besoin ne peuvent pas nous être fournis par la science ou la technologie, dont la valeur dépend entièrement des fins qu'elles servent, mais on peut encore les trouver dans la sagesse traditionnelle de l'humanité.